carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Née au Havre en 1877, Raoul Dufy a peint des plages de Normandie et des vues de Montmartre avant de découvrir le Midi pour la première fois en 1903. Un premier séjour déterminant. À Martigues, en effet, il découvre la lumière du sud de la France, chère au peintre. Ainsi naît une histoire d'amour avec les paysages méditerranéens qui durera toute sa vie. La Méditerranée devient pour lui une source constante d'expérimentation à la recherche de ce qu'il appellera la lumière couleur. En 1905, il s'engage dans les voies de l'avant-garde, libère la couleur. Au fur et à mesure, il suit la voie d'un langage pictural propre qu'il affinera surtout à partir de 1919. Dès 1923, de nombreux collectionneurs belges s'intéressent à son travail. Artiste décorateur, selon ses propres mots, décoration et peinture se désaltèrent à la même source, grand producteur d'œuvres, les dessins, les toiles, les aquarelles, les gouaches, les gravures ou les encres de Dufy, quand il ne combine pas les techniques, portent un regard sur un monde en joie, sur des paysages, des intérieurs de théâtre ou d'opéra, où musiciens, orchestres, Arlequin ou Vénus se côtoient au fil des ans. L'art de Dufy est fluide et d'une virtuosité certaine qui lui permet de se confronter aux maîtres du passé comme Botticelli, Tintoret ou Titien dans les années 40. En 1937, il peint « La fée électricité » pour la fameuse exposition internationale des arts et techniques de la même année, exposée récemment par ailleurs en 2010 au musée d'art moderne de Chaillot, une œuvre monumentale composé de 250 panneaux de 2 mètres de haut sur un de large. Cette même année 1937, il commence pourtant à ressentir les premiers symptômes de la polyarthrite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il séjourne chez son ami l'écrivain Roland Dorgelès et refuse l'invitation qui lui est faite de participer avec d'autres artistes français à un voyage en Allemagne en 1943. Pendant cette période, il séjourne de plus en plus régulièrement près de Perpignan. En 1952, il représente la France à la 26e Biennale de Venise et meurt l'année suivante à Forcalquier. Il est enterré à Nice. En notre compagnie aujourd'hui, au micro de Canal Académie, par téléphone, Maïté Vallès-Bled, directeur du musée Paul Valéry, pour nous présenter la très belle exposition qui vient d'ouvrir au public et dont elle est le commissaire, Dufy en Méditerranée. Une exposition présentée à 7 du 19 juin au 31 octobre 2010 au musée Paul Valéry, récemment rénové, situé sur les hauteurs du mont Saint-Clair, juste au-dessus du cimetière marin et à quelques pas de la maison de l'artiste Pierre Soulages. Bref, un lieu magique. Maïté Vallès-Bled, bonjour.
Bonjour.
Alors, Raoul Dufy est né dans le nord de la France, au Havre. Il a beaucoup séjourné dans le sud de la France. Ses étapes ont été nombreuses, de Nice à Perpignan. Est-ce que vous pourriez nous situer ce parcours méditerranéen de Dufy et qui a voyagé non seulement en France, mais aussi en Italie, en Sicile, au Maroc, etc. Alors.
Oui, alors, dès sa jeunesse, dès l'âge de 26 ans, il découvre le Midi et à partir de là, va se construire une relation quasiment permanente entre ce sud de la France et quelques-uns des pays autour de la Méditerranée et lui. Et il va partager son temps entre, bien sûr, la Normandie, vers laquelle il revient sans cesse, Paris, où il a son atelier, et ce sud méditerranéen vers lequel il se dirige quasiment chaque année, durant toute sa vie, à l'exception de 2 ou 3 périodes d'interruption de 3 ou 4 ans, mais qui sont vraiment très très peu nombreuses dans toute sa vie. Et au point que, alors évidemment en fonction des circonstances aussi au début de la Deuxième Guerre mondiale, et au point qu'il va choisir de s'installer dans le Midi, après avoir quitté Paris au moment de l'arrivée des Allemands, il se dirige vers Nice, et il va très rapidement quitter Nice lorsque l'Italie va entrer en guerre, et rejoindre Céret d'abord et Perpignan, où il va passer une dizaine d'années à la fin de sa vie, avant de s'installer pour une période brève, puisque c'est les derniers mois de sa vie qu'il y passe, à Fort-Calquier.
Où il décède en fait en 1953. En quoi Dufy se distingue-t-il des autres peintres qui, comme lui et avant lui, ont été fascinés par cette lumière du sud de la France ?
Alors, à la fois, il s'en distingue par la durée de cette relation et par l'implication que ce côtoiement incessant avec le Midi a pu avoir dans l'évolution de son travail, et en même temps, à une certaine période de sa vie, c'est-à-dire durant les années de la jeunesse, il s'en distingue peu, puisque à ce moment-là, tous les peintres de la génération fauve vont vers le Midi sur les traces de Cézanne. Dufy y va avant, puisqu'il son premier voyage date de 1903, mais disons que jusqu'à la Première Guerre mondiale, il a avec le Midi cette relation qu'ont tous les artistes de la jeune génération et de l'avant-garde. En revanche, ce qui va se passer dans le Midi, la manière dont la lumière de la Méditerranée va être associée à l'évolution de son œuvre, va continuer de durer durant à peu près jusqu'à la fin de sa vie. Et dans l'atelier de Perpignan, au cours des dernières années, il va faire entrer toutes les synthèses des recherches sur la lumière et sur la couleur qu'il a menées durant toute sa vie. Il va faire entrer dans cet atelier extrêmement lumineux qui donne sur la place Arago l'étape ultime de son interrogation sur la lumière qui consiste à faire de la lumière avec du noir.
Comment se fait-il que le sujet de cette exposition, Dufy et la Méditerranée, n'ait jamais été traité tant il s'impose maintenant, pour nous, à nos yeux, aujourd'hui, comme une évidence? Vous avez pointé là un sujet extraordinaire.
Alors, effectivement, cela peut sembler curieux. En même temps, il ne peut pas être organisé d'exposition de Dufy sans que des œuvres liées à la Méditerranée y soient présentées. Et ça a donc naturellement toujours été le cas. Mais jamais ce sujet n'avait été traité de manière transversale, d'une manière qui permet de définir de façon assez précise les moments où il se passe des choses nouvelles dans l'œuvre du peintre et de quelle manière cette lumière, encore une fois, ce sud qu'il aime et avec lequel il a une relation passionnée, pourrait-on dire, est présent dans les différentes étapes de l'évolution de sa peinture. C'est le cas dès 1907, fin 1907 et durant toute l'année 1908, où après l'expérience fauve, qui ne se déroule pas dans le Midi, qui pour Dufy se situe sur les plages de Normandie au cours de l'été 1906, lorsqu'il peint avec Marquet. Et il fait partie de cette dernière génération de peintres qui arrivent au fauvisme tardivement, en 1906. Dans cette génération, ce sont les trois peintres à vrai, justement, Braque, Frièse et lui-même. Et donc, ils arrivent tardivement au fauvisme, ils vont donc être très peu de temps fauve. Et dès la fin de 1907, lorsque Dufy retourne dans le Midi, à l'Estac, à Martigues, à Vence, il réalise là ses dernières toiles fauves. Et c'est dans le Midi que va s'opérer l'engagement sur la voie ouverte par Cézanne.
Alors justement, c'est les toiles de Raoul Dufy de la période que vous indiquez, cette période de 1907-1908 où il est sous l'influence des recherches de Cézanne. Est-ce que vous pourriez prendre l'exemple de la toile Les Barques à Martigues ?
Oui, Barques à Martigues, qui est conservée au musée Zième de Martigues précisément, qui date de la fin de 1907 et qui est tout à fait symbolique de ce passage qui est précisément à ce moment-là en train de s'opérer, c'est-à-dire l'éloignement du seul recours à la couleur pure, une structuration des formes, une manière différente de traiter la relation à la perspective, qui là est directement issue de la leçon cézannienne, avec cet étagement des plans horizontaux qui suggère la profondeur et l'apparition d'une palette qui recourt davantage aux couleurs complémentaires qu'aux vives oppositions de couleurs primaires. Et il est intéressant d'observer que cette œuvre est réalisée à la même période que la terrasse sur la plage conservée au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui figure également à l'exposition, et qui, elle, conserve encore dans sa palette une très vive connotation fauve, alors que dans cette œuvre-là également, les formes commencent à se structurer. Donc on a vraiment avec ces deux œuvres le moment de la transition. Transition qui se manifeste de manière beaucoup plus affirmée avec les œuvres de l'année suivante. Les paysages de Vence, réalisés à Vence notamment. Vence a été à différentes reprises
un autre lieu d'expérimentation.
Des moments d'expérimentation dans l'œuvre de Dufy. Alors,
pourquoi disait-il que le peintre qui ne se fie qu'à son œil est trahi ? L'œil est l'ennemi du peintre, disait-il.
Oui, parce qu'il y a cette relation qui est au réel, alors qu'il n'est pas totalement nouvelle, que les impressionnistes ont déjà mis en œuvre avec cette conviction que la peinture devait être autre chose qu'une photographie, que les nabis ont poursuivi, que les fauves, bien évidemment, ont exploité à leur tour, cette conviction que la relation au réel passe par une transposition du réel. Et donc ce réel transposé n'est pas l'interprétation fidèle du motif et la narration mot pour mot du motif.
Mais est-ce que vous diriez qu'il est quand même fidèle au motif ?
Oui, il part du motif. Il part du motif et l'œuvre peinte, et ça c'est une des grandes leçons de la modernité, l'œuvre peinte est avant tout une surface plane sur laquelle l'artiste travaille selon un moyen d'expression qui n'éprouve pas la nécessité de transcrire une réalité avec une fidélité.
Total.
On a pu connaître dans les siècles précédents. Encore une fois, la photographie est passée par là, a opéré de grandes remises en question. Et avant tout, une œuvre est l'expression, est une expression picturale.
Est-ce que ça peut s'expliquer par sa double formation d'artiste et de décorateur, d'avoir abouti à ça ?
À ce niveau-là, non, parce que c'est vraiment un sujet qui préoccupe tous les artistes de
l'époque,
de la génération, y compris de la génération précédente.
Et à partir de quand élabore-t-il son propre système dont il a une théorie ? Et aujourd'hui, il est presque de bon ton pour les artistes de ne se réclamer d'aucun système. Alors qu'en est-il pour lui dans ces années où il s'engage sur dans sa propre voie ?
Le système qu'élabore Dufy et qu'il va vraiment être son obsession permanente jusqu'à la fin de sa vie, et celui de la couleur-lumière.
Alors, quelle est cette expression ?
La couleur-lumière qui passe pour lui, il s'en est expliqué à différentes reprises très très largement, sur la nécessité d'accéder à la lumière par la matière elle-même, et non pas de retranscrire sur la toile un éclairage qui viendrait d'ici, on prend des couleurs plus claires et c'est ce qui donne la lumière. C'est à l'intérieur de la matière elle-même qu'il recherche cette lumière, à l'intérieur de la couleur. Et il va, durant toute sa vie, s'intéresser beaucoup au médium notamment. Et il va travailler avec un restaurateur chimiste, un restaurateur de tableaux qui est également chimiste, qui va mettre au point dans les années 30 un médium qui aura pour effet d'atténuer considérablement l'opacité des pigments. Et c'est avec ce médium qu'il va peindre la fée électricité.
C'est ce qui fait sa particularité.
Et ce médium, le recours à ce médium permet de donner à l'huile une transparence, une luminosité, une fluidité qui sont comparables à celles de l'aquarelle. Et ce n'est d'ailleurs pas étonnant si Dufy s'est beaucoup intéressé à l'aquarelle, et particulièrement dès le début des années de l'entre-deux-guerres, lorsque justement il est entré de plein pied dans l'élaboration de ce système.
Vous parliez d'aquarelles, vous présentez dans cette exposition des aquarelles sublimes de Raoul Dufy. On en a répertorié 6000 et c'est beaucoup. Et le nombre de ses peintures était globalement inférieur de moitié. C'est presque un aquarelliste entre l'œuvre peinte et puis l'aquarelliste, lequel des deux l'emporte. Mais quelle résonance ou quel écho a-t-il trouvé justement dans l'aquarelle par rapport à ses recherches sur la lumière couleur ?
Alors, quand on observe la manière dont régnait Dufy, il n'est pas étonnant qu'il se soit intéressé à l'aquarelle. Bon, d'une part, il y a ses préoccupations de recherche de la lumière à l'intérieur du médium lui-même, et il est évident que l'aquarelle apporte des réponses immédiates à ce type de préoccupations. L'aquarelle également n'autorise aucun repentir et demande une rapidité d'exécution assez significative. Et quand on considère la manière dont Dufy peignait, il peignait très vite et il dessinait sur la toile avec son pinceau, sur la couleur préalablement posée et avec un pinceau qu'il manie avec une extrême dextérité et par lequel il ne s'autorise aucun repentir. C'est ce qui est assez époustouflant lorsque l'on considère de manière un peu introspective les œuvres de Dufy, c'est la rapidité de ce trait, l'assurance absolue de ce trait et l'absence totale de repentir.
Donc il y a un lien très très fort entre peinture et dessin chez Dufy.
Oui, mais un dessin qui va toujours être réalisé en allant directement à l'essentiel, en excluant tout détail ce qui lui paraît superflu, en se libérant de l'anecdote, avec une économie de moyens qui va avoir une résonance très forte sur le regard.
Alors, si on prend l'exemple d'Amphitrite, peut-être, dans le port de Marseille,
oui.
C'est un thème cher à Dufy, ce thème de la baigneuse. Est-ce que vous pourriez nous la commenter ? Parce que c'est une aquarelle tout à fait représentative, justement, de sa façon de gérer les échelles et de
oui.
mélanger alors, réel et imaginaire. Enfin, bon.
Alors, cette figure d'Amphitrite, il est intéressant d'observer quel est le pendant méditerranéen de justement la figure de la grande baigneuse qui apparaît très peu de temps avant la guerre, en 1913, et qui, elle, est représentée en maillot de bain, sans qu'il s'agisse d'une allégorie quelconque, et elle est représentée dans la baie de Sainte-Adresse. Lorsqu'il reprend ce sujet de la femme dans un port devant la mer, il le fait en Méditerranée, et le pendant méditerranéen de la grande baigneuse va être Amphitrite ou Vénus. Les deux figures se confondent. Dans l'œuvre de Dufy, Vénus étant d'ailleurs souvent représentée tenant une coquille à la main ou entourée de coquilles. Et dans cet Amphitrite, dans le port de Marseille, qui date du milieu des années 20, Amphitrite est effectivement représentée sur une espèce de plage imaginaire. Et c'est cette transposition du réel que l'on évoquait tout à l'heure, avec derrière elle le port de Marseille, dont il a exclu la présence du grand port transbordeur qui barrait son entrée et que l'on retrouve dans la plupart des toiles ou des aquarelles de l'époque. Là, il la retire et il va construire autour de ce personnage féminin un monde qui est totalement imaginaire, en partie onirique aussi, en préservant sur la droite une référence au port de Marseille, mais en faisant intervenir d'autres personnages qui se baignent dans le port, des poissons, des coquillages, en fait, tout un registre de décors qui sont totalement caractéristiques de sa peinture. À cette époque-là, Dufy a trouvé son style, ce style si caractéristique qui est à la fois inventif, qui est d'un modernisme très élégant et qui a cette relation au réel totalement fantaisiste.
Fantaisiste, lié à l'imaginaire, presque voilà, très poétique. Là.
Oui.
Amphitrite est présentée assise sur ses genoux. C'est une figure
oui.
aussi qu'il reprendra dans plusieurs toiles. Et effectivement, c'est très poétique sur la gauche du tableau, les personnages qui sont à la fois dans la mer, le fond, le sable, on ne sait pas trop. Il y a des éléments
aériens au besoin.
Il y a des petits éléments décoratifs qui font absolument pas pittoresque. C'est quand même le grand tour de force de
oui,
son
absolument.
Style.
Oui, absolument.
Hein.
Il ne laisse pas entrer le pittoresque, mais il laisse entrer l'imaginaire.
Voilà.
Et il réalise des toiles qui sont très composites quant au sujet retenu, dont on a d'ailleurs une très belle illustration dans l'exposition avec son hommage à Claude Lorrain.
Oui, je voulais justement qu'on en parle.
Qui est réalisé une dizaine d'années plus tard, vers 1935, et dans lequel, alors là, nous avons affaire à un paysage totalement imaginaire, reconstruit à la manière dont Lorrain pouvait construire ces paysages oniriques, mais en même temps, il ne s'agit pas d'une interprétation de Lorrain du tout. Il y a simplement, c'est en ce sens que cette œuvre est intéressante, il y a finalement une approche identique entre ces deux artistes, un maître ancien et un maître classique et un peintre de la modernité, une approche qui est totalement analogue.
Avec une lumière très envahissante. Là pour,
oui, une lumière
pour
qui est présente sur la totalité de la surface du tableau parce qu'elle est recherchée à l'intérieur du pigment lui-même. Et dans cette représentation-là, Il fait intervenir des éléments de ruines antiques, avec la présence, une allusion au Colisée sur la gauche, un bâtiment tout à fait imaginaire sur la droite. Au pied du Colisée, il place le temple à musique de Hier, voilà. De la place de Hier. Bon, il y a là toute une recomposition qui correspond totalement à la période de la maturité chez Dufy et qui est époustouflante.
Avec ces intensités dont on parlait. Et puis peut-être, puisque le thème de l'exposition Dufy en Méditerranée, c'est peut-être l'occasion de parler aussi de sa façon de lier le ciel et mer dans tous ses tableaux, dans toutes ces sur ces thématiques.
Il lie effectivement le ciel et la mer d'abord et essentiellement à travers la couleur, à travers le bleu, dont il disait qu'il s'agissait de la seule couleur qui, quel que soit le niveau d'intensité, le degré de tonalité qu'on va lui donner, reste toujours bleu. Il expliquait qu'un rouge, si on le mélange à du blanc, n'est plus du tout un rouge et devient un rose. Le jaune, de la même manière. Alors que le bleu restera toujours du bleu. Et c'est une couleur qui est très dominante dans sa peinture, de manière transversale, sur l'ensemble de sa production. Une couleur qui lui était, si on veut chercher toujours des explications qui en même temps n'en sont pas forcément, mais qui est évidemment intimement liée aux paysages dans lesquels il est né, il a grandi et dans lesquels il a continué de peindre toute sa vie, qui sont des paysages marins.
Oui, et qu'il peut utiliser aussi sans référence à l'eau, par exemple dans le tableau qui sert à la couverture du catalogue de l'exposition sur cette jetée promenade à Nice, où là le bleu est utilisé pour d'autres choses.
Oui, alors là nous avons avec cette œuvre qui appartient également au musée d'art moderne de la ville de Paris, l'illustration de cette dissociation de la couleur et de la forme, qui est l'autre grande caractéristique de Dufy. C'est-à-dire que la couleur, dès le lendemain de la guerre, ne va plus se limiter aux contours imposés par le dessin. Elle va transgresser les limites, elle va s'étendre bien au-delà des barrières, entre guillemets, de la ligne.
C'est caractéristique sur ce tableau.
C'est caractéristique sur cette œuvre, et il est intéressant d'observer que la première manifestation, la première mise en place de ce procédé, entre guillemets, se situe à Vence, au tout début des années 20, 1920. Mmh. C'est dans les représentations de Vence que l'on voit pour la première fois, de manière plus timide que sur cette œuvre qui date de 1926, que l'on voit pour la première fois cette dissociation de la couleur et de la forme se mettre en place.
Voilà, où la couleur est complètement désolidarisée des contours. Et pour en finir, si on peut dire, si on peut parler comme ça, avec cette toile de la jetée de promenade, il y a effectivement une jarre de jardin qui est coupée en deux par justement l'utilisation des couleurs.
Voilà, c'est-à-dire que la part finalement lumineuse est matérialisée par une large touche de pinceau très, très verticale, très allongée, de la même manière d'ailleurs que l'est la robe du petit personnage qui est sur la gauche de ce grand vase et qui lui est de la même façon, quasiment coupé en deux par une large touche rouge qui suffit à illuminer son vêtement. Dufy a aussi s'est expliqué sur ce qui avait pu le conduire à ce type d'observation. Il avait raconté qu'un jour, au début des années 20, se trouvait sur la jetée de Trouville à regarder les passants évoluer. Il avait été frappé de la manière dont l'œil conservait la mémoire de la trace de la couleur beaucoup plus que de la forme. Et il avait remarqué cela en observant une fillette qui courait, une fillette qui était habillée d'une robe rouge, je crois, justement, qui courait. Et il avait été sensible à ce moment-là au fait que l'œil conservait davantage et plus longtemps la mémoire de la couleur et de la trace de la couleur que des contours du dessin, que de l'image elle-même. Et c'est cette réflexion-là qui l'a conduit à cette dissociation. C'est la traduction en peinture, si vous voulez, de ce phénomène, la traduction à laquelle il est abouti et qui lui est totalement personnelle.
Retrouvons Maïté Vallès-Bled dans quelques instants pour poursuivre la présentation de l'exposition Raoul Dufy au musée Paul Valéry de Sète, que vous pouvez voir jusqu'au 31 octobre 2010. Alors, il aime revenir sur les thèmes, il travaille par série, et alors apparemment indifféremment de leur lieu de création, c'est ce que vous avez découvert, je crois.
Oui, et particulièrement, pour reprendre cet exemple de l'œuvre dont nous parlions à l'instant, la jetée promenade à Nice, qui est en réalité la représentation du casino de la jetée promenade, un bâtiment absolument extraordinaire et fantasque qui relevait d'un style totalement composite avec des coupoles, des toits à bulbes, quelque chose d'orientalisant également, et qui était une construction sur pilotis qui avait été donc élevée de manière perpendiculaire à la baie des Anges, donc sur la mer, la jetée traversait la plage, et on arrivait à cette construction du casino qui était, lui, sur pilotis. C'est une construction qui a été démolie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, sur ordre du gouvernement de Vichy, qui souhaitait répondre en cela favorablement aux troupes allemandes, qui voulaient récupérer les quelques milliers de tonnes d'acier et de fer qui avaient servi à la construction de la jetée. Et ce casino de la jetée promenade, Dufy a continué de le peindre jusqu'à la fin de sa vie, y compris dans l'atelier de Perpignan, alors qu'il était détruit depuis plus d'une dizaine d'années. De la même manière, on sait que lors de ses différents voyages, et la plupart de ses voyages, à l'exception de deux voyages en Angleterre, d'un voyage à Prague, la plupart de ses voyages l'ont conduit en Méditerranée. Il est allé en Italie deux fois, il est allé
très
en
belles,
Sicile.
Très belles aquarelles d'ailleurs, hein, l'Arlequin de Venise, on ne peut pas toutes les évoquer. Mais...
Il est allé au Maroc, il est allé en Algérie, en Espagne. Et de la même manière, donc il pouvait tout à fait, au cours de ses voyages, prendre quelques notes, quelques croquis à noter et peindre après son retour. Cela s'est manifestement produit pour quelques-unes des représentations, par exemple, du théâtre antique à Taormine. Il a peint sur place, mais il a aussi peint dans son atelier à son retour. Et encore pour exemple, on peut également citer ses nombreuses versions qu'il a données dans l'atelier de Perpignan, donc à la fin de sa vie, des fameux cargos noirs qui sont, eux, tous représentés dans la baie de Sainte-Adresse. Et dont il a donné dans ses différentes vues d'atelier, puisque parmi les grandes séries qui dominent cette période de Perpignan, il y a la série des orchestres et des musiciens et la série des ateliers. Et dans plusieurs représentations de son atelier de la place Arago, de la rue de l'Ange plus précisément, donc qui donnait sur la place Arago à Perpignan, on voit sur le chevalet une grande toile sur laquelle figure un cargo noir en cours d'élaboration. Et donc, il pouvait peindre les sujets qu'il avait retenus, finalement, dans d'autres endroits que...
Voilà. Des lieux ou de la représentation
et,
du...
Et ça, c'était très fréquent dans l'atelier de Perpignan. D'abord, il bouge moins, il se déplace moins, il est quand même... très handicapé à cette période-là par la polyarthrite qui s'est manifestée chez lui dans la deuxième moitié des années 30, qui le fait terriblement souffrir, donc il se déplace moins. Et dans cet atelier de Perpignan, il va faire entrer non seulement toute la Méditerranée et toute la lumière de la Méditerranée, mais il va faire entrer aussi toute la Normandie, dont ces cargos noirs sont une sorte de synthèse.
C'est peut-être l'occasion justement de parler de cette... couleur noire, là, qu'on retrouvait plutôt comme ligne dans les toiles de Dufy. Et là, il l'utilise comme il utilisait les bleus, j'allais dire.
Voilà,
c'est-à-dire un usage différent.
Le noir est très largement utilisé dans son œuvre pour définir le dessin. Le dessin qui vient en surimpression de la couleur.
Alors que là, qu'est-ce qui se passe ?
Là, il s'agit d'autre chose. Voilà. C'est-à-dire que, autant dans ces cargos noirs entrant en plein soleil dans la baie de Sainte-Adresse, que dans, par exemple, les représentations qu'il a pu donner de corrida, il va, à la fin des années 40, à Tolède, à l'occasion d'une cure justement pour sa polyarthrite qu'il fait dans le nord de l'Espagne. Il assiste à une course de taureaux, il est ébloui par ce qu'il voit et par la différence avec celle qu'il avait vue dans le midi de la France. Et cette arène inondée de soleil de la corrida, dans ses tableaux, est représentée par un large aplat noir. Donc la partie la plus ensoleillée, la plus lumineuse, est noire. Et c'est dans ce noir qu'il faut voir l'expression de la lumière, de ce noir qui est en même temps issu de l'éblouissement provoqué par le soleil. Si on regarde le soleil en face, eh bien effectivement, Dufy avait relevé, bien entendu, qu'on pouvait ne plus rien voir, mais en même temps, dans cet éblouissement du soleil, qu'il traduit par le noir, c'est là qu'il cherche à faire naître la lumière. Et bon, il est évidemment intéressant dans une ville qui est aussi la ville de Soulages, c'est un voisin du musée Paul Valéry, qui est juste à côté, d'établir cette passerelle. Car bon, en 49, Dufy cherche à faire de la lumière avec du noir.
Alors peut-être qu'avant de nous séparer, quel est votre coup de cœur sur l'accrochage de cette exposition ? On n'a pas évoqué la série des orchestres et des musiciens avec toutes ces tonalités de jaune ou de rouge. Mais quel est votre coup de cœur, Maïté Vallès-Bled ?
J'ai toujours du mal à répondre à ce type de questions parce que je dirais que ces coups de cœur, il doit y avoir. Ce n'est pas sur une œuvre que, particulièrement, parce que ça relève de la sensibilité de chacun, de bon, mais plutôt devant cette faculté qui était celle de Dufy à se renouveler, à laisser son imagination ne jamais reproduire deux fois la même chose, même dans ces séries sur lesquelles il est revenu très longuement. Il a vraiment une capacité de ne jamais se répéter qui est extraordinaire.
Merci Maïté Vallès-Bled. Je rappelle que l'exposition Dufy en Méditerranée est ouverte au public du 19 juin au 31 octobre 2010, que l'on peut se procurer le catalogue de l'exposition qui est édité aux éditions Au fil du temps, une publication du musée Paul Valéry qui montre combien la Méditerranée a irradié l'œuvre du peintre de 1903 à sa mort en 1953. Mais c'est l'occasion de voir aussi des toiles qui proviennent de nombreuses collections publiques et de collections particulières internationales qu'on n'aura pas l'occasion de revoir de sitôt, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Maïté Vallès-Bled.
Merci à vous.